Radio Okapi. Okapi.
C'est l'heure de vous informer avant de commencer le sommaire. Le dépôt des candidatures pour les élections provinciales a été prolongé du 5 au 25 mai. À la base de ce report, des problèmes d'ordre technique. Vous écouterez dans ce journal le rapporteur de la CENI. Mathieu Ngoujolo est-il oui ou non de retour en RDC après son acquittement à la CPI? C'est du moins ce qu'ont annoncé des médias internationaux hier, une version que rejette sa communauté en Ituri. Et puis un chef de guerre Mai Mai a été abattu hier par des militaires du 613e bataillon basé à Pueto au Katanga. Le seigneur de guerre Mandrakwa contrôlait une trentaine de villages et dirigeait un millier d'hommes dans la chefferie Kyonandini. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Élections provinciales en RDC pour commencer. La Commission électorale nationale indépendante prolonge jusqu'au 25 mai le dépôt des candidatures. La fin du dépôt était initialement prévue pour le 5 mai. La nouvelle est annoncée par son vice-président. Selon André Pungwe, cette prolongation n'aura aucune incidence majeure sur le chronogramme global établi par la CENI. Au micro de Jacques-Yves Molima, Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, donne le chronogramme aménagé et la raison de cette prolongation. Suivez.
Du 6 au 25 mai, c'est ça le délai de prolongation. Du 26 mai au 30 sont les 5 jours du délai légal de retrait, ajoute ou substitution des candidats. Et aux alentours du 7, la CENI aura déjà examiné au niveau du bureau la liste des candidats députés provinciaux de toute la République pour publier la liste provisoire. Vous nous avez vu depuis le 15 faire les tours de la ville et nous avons les opérations de monitoring. Sans oublier que nos téléphones ont chauffé au coin et au recoin. Il y avait des difficultés telles que les signaux qui n'étaient pas opérationnels dans certaines entités. Le cas de Inongo est le plus récent. Il y a beaucoup de paramètres que nous avons à travers notre plan opérationnel qui contraint que nous puissions prolonger de 20 jours.
À propos toujours des élections, des partis et regroupements politiques ont signé ce samedi le code de bonne conduite ainsi que le protocole d'accord de la mise en place du comité de liaison entre les partis politiques et la CENI. La double cérémonie a eu lieu à la maison des élections à Kinshasa. C'est notamment le mouvement de libération du Congo MLC, l'alternance Vital Kamerhe AVK et le parti socialiste africain PSA. Pour le MLC, c'est sa secrétaire générale Eve Bazaïba qui a apposé sa signature devant André Pungwe, vice-président de la CENI. Eve Bazaïba explique ici la portée politique de son geste à la CENI. Elle est au micro de Jacques-Yves Molima.
C'est un signe d'engagement du mouvement de libération du Congo à contribuer à l'organisation des élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a d'abord le code de bonne conduite contenu, surtout pour montrer comment est-ce que nous devons avoir les élections apaisées. Pendant la campagne électorale, c'est souvent le moment crucial où nous devons faire la différence entre les différents et les personnes, où on s'attaque au système et non aux individus. Pas des attaques personnelles, ça c'est le MLC, vous pouvez compter sur nous en tout cas, à moins qu'il n'y ait pas de réciprocité. Et en ce qui concerne les comités de liaison, c'est encore très très important, ça nous permet d'être à temps en ce qui concerne tous les processus en termes d'informations, en termes de documents.
Justice, dans ce journal, Mathieu Ngoujolo est-il oui ou non rentré au pays après avoir été libéré par la Cour pénale internationale à La Haye? C'est en tout cas ce que certains médias étrangers ont diffusé dès hier vendredi comme information sur un éventuel retour de ce Congolais arrêté à la CPI en 2009 pour enrôlement d'enfants soldats et massacre à Bogoro en Ituri. Pour sa famille et les membres de la communauté l'hindoue auquel il appartient, Mathieu Ngoujolo est encore en Hollande. Elles disent n'avoir aucune autre information. Suivez le chargé des relations publiques au sein de la communauté l'hindoue, le pasteur Christophe Lopa. Il est joint au téléphone depuis l'Ituri par Lievin Mbwinga.
Hier vers 16h, j'avais reçu la visite de la famille biologique de Mathieu Ngoujolo. Cette famille est nous-mêmes membres de sa communauté. Nous avons suivi des informations qui ne sont pas précises, qui disaient que Ngudjolo allait être remis dans son pays aujourd'hui samedi. Alors, la famille se pose la question de savoir, Ngudjolo ne peut pas être remis dans sa famille sans pouvoir informer sa famille biologique. Ngudjolo lui-même, d'habitude, s'il sait qu'il doit rentrer dans son pays, il devrait informer sa famille biologique ou soit certains membres de sa communauté qui sont toujours en contact permanent avec lui. D'ailleurs, ça fait à peu près 2 jours à 3 jours. Il avait même parlé à son grand frère. En tout cas, ce qui est sûr, il devait partir en Suisse dans un pays d'asile. C'est une grande surprise, c'est une grande inquiétude, monsieur le journaliste.
Il est où, selon vous, aujourd'hui?
Ngudjolo, présentement, doit se retrouver à La Haye.
Donc, selon vous, il n'a jamais pris un avion pour venir à Kinshasa?
Non, journaliste, non, non.
Clôture ce samedi à Kinshasa des états généraux de la justice. Il s'est agi pendant 7 jours pour les participants venus de toutes les institutions de la République et de différentes associations d'établir le diagnostic sur les maux qui rongent le système judiciaire et de formuler des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la justice congolaise. Les recommandations qui ont découlé de ces états généraux sont nombreuses et étalées sur le long, moyen et court terme. Écoutez Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais de la justice, dans ses propos recueillis par Innocent Olenga.
L'avantage de ces états généraux, c'est d'avoir réuni tous les acteurs de la justice qui, ensemble de commun accord, ont pu, sans complaisance, procéder au diagnostic de notre justice pour aboutir à des recommandations pertinentes. Celles-ci, ayant été prises ensemble de commun accord, c'est également ensemble qu'elles seront portées par le gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, et divers autres acteurs de la justice pour assurer la mise en application des réformes qui s'imposent et changer sa physionomie. La tâche est certes ardue et de longue haleine au regard de nombreux défis à relever, mais l'important, c'est de mettre le secteur de la justice sur les rails, de répondre aux attentes du citoyen en cette matière.
L'actualité, c'est aussi la mort du chef de guerre Mai Mai, connu au Katanga sous le nom de Mandrakwa. L'homme et son garde du corps ont été tués hier vendredi au cours d'un affrontement avec des militaires FRDC du 613e bataillon basé à Pweto. L'armée a également capturé plusieurs autres Mai Mai, dont 2 femmes. Ces informations données par la société civile sont confirmées par des sources officielles à Pweto. Ces derniers renseignent que Mandrakwa dirigeait environ 1000 éléments Mai Mai qui sèment le désordre dans la chefferie de Kyonanzini. Que s'est-il exactement passé, Madeleine Waila?
L'incident s'est produit vendredi dernier en pleine journée dans la brousse de Kimbembe, chefferie Kyonanzini, à plus de 150 km au sud-ouest de Pweto Centre. Eric Kashishi, de son vrai nom, alias Mandrakwa, a été abattu lors des affrontements avec les militaires FARDC basés à Pweto, au Katanga. En dehors de la mort de Mandrakwa et celle de son garde-corps, qui est officiellement annoncée par les autorités politico-administratives et militaires de Pweto, certaines sources sur place indiquent que plusieurs Mai Mai ont été également tués lors de ces affrontements. En outre, renseignent les mêmes sources, 2 femmes parmi les Mai Mai de Mandrakwa ont été capturées par les FARDC. Les informations en notre possession indiquent que la cachette du seigneur de guerre abattu était découverte grâce au concours de sa famille. Pour rappel, le seigneur de guerre Mandrakwa était actif dans la chefferie Kyonanzini depuis 2013. L'année passée, Mandrakwa contrôlait une 30aine de villages dans la chefferie Kyonanzini. Son groupe comptait plus de 1000 éléments Mai Mai. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Terminons ce journal par le Nord Kivu. Il y a eu une rencontre hier entre le commandant des opérations Sokola 2 et les populations de Nyamilima dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru. La rencontre avait pour but de discuter sur la sécurité dans ce groupement où 30 personnes ont été tuées et de nombreuses autres enlevées cette année, la plupart par des éléments Nyatura d'un certain Kamodoka. D'après la société civile locale, le commandant de Sokola 2 les a rassurés que des solutions seront rapidement trouvées. Kambale Kanduki, président de la société civile, donne l'essentiel de la rencontre. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
Le général nous a confirmé qu'il travaillera désormais avec les populations civiles dans la sécurisation de notre milieu. Il est prêt à intervenir chaque fois qu'il y aura un problème, que ce soit la journée ou la nuit. Nous le remercions pour cela. Nous sommes contents parce qu'il dit qu'il est prêt à nous aider. Nous avons toutefois une recommandation par rapport aux groupes armés. Nous demandons qu'ils soient pourchassés et démantelés. Et si un civil est accusé de complicité avec ces groupes armés, qu'il soit arrêté et déféré devant la justice pour qu'il réponde de ses actes. Nous, population de Niamey-Lima, nous sommes vraiment contentes de voir que le général s'implique lui-même dans la situation que nous traversons en ce moment. Nous sommes confiants que la paix va revenir dans notre entité.
18h10 à Kinshasa, ce journal est fini. Merci de votre attention.
Okapi, Okapi, Okapi.